Amen. Répète après moi cette parole. Seigneur Jésus,
je te présente ma vie.
Je viens devant toi
te demander de m'accorder
par ton pouvoir
un esprit de sagesse
et de révélation dans ta connaissance.
J'ai besoin de l'esprit de révélation
pour comprendre la révélation. Je veux entendre ta parole et la comprendre.
Éternel Dieu,
que cette parole influence mon vécu.
Que cette parole
produise la foi.
Crée en moi
l'assurance
indispensable
et le courage nécessaire
à l'accomplissement
des desseins
que tu as arrêtés
pour moi.
Au nom de Jésus,
j'ai prié.
Amen.
Dans la même position, prends ta Bible avec moi dans Galates 4.
On va lire le verset 4 à 5.
Galates 4.
Tu y es?
Très bien. Regardons dans la parole de Dieu calmement.
On va lire ensemble 1, 2, 3.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption.
Vous voyez, ici, il y a, c'est incomplet au verset 5.
Et afin que, qu'il rachetât ceux qui étaient sous la malédiction de la loi, afin que nous recevions l'adoption.
Au temps marqué par Dieu,
Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi.
Et le but de ce fils, c'était afin qu'il rachetât
ceux qui étaient sous la malédiction de la loi, afin que nous recevions
l'adoption.
Que nous soyons adoptés dans la famille royale.
Seigneur, je mets une demande au devant de ton trône.
La capacité d'enseigner dans la simplicité
et dans le langage, mais la puissance de l'esprit,
ce message qui, je crois, va bouleverser notre homme intérieur et va nous donner la révélation profonde du rachat tridimensionnel dont nous avons été l'objet par l'obéissance de ton fils mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour notre justification, car par cet acte, il a dépouillé l'enfer de tous ses pouvoirs et nous a donné les clés de la vie aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise trois fois amen.
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 Assieds-toi donc dans la glorieuse présence de Dieu. Et dis à ton voisin, je suis heureux d'être dans cette église. Cette méga église qui est en marche.
Une église qui influence le monde.
Une église qui amène le règne de Dieu.
Je suis partisan
d'une méga église
en gestation.
En Côte d'Ivoire, au nom de Jésus,
j'ai prié.
Amen. Oh là là, je suis heureux d'être ton pasteur, moi aussi. Être dans cet endroit, c'est quelque chose de bien. Je suis là où Dieu a voulu que je sois en cette saison. Il n'y a rien de tel.
La Bible dit au temps marqué
par Dieu. Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi.
Au temps marqué par Dieu.
Nous parlons de la dispensation de la grâce. Et nous avons dit que la dispensation, ce sont des périodes de l'histoire humaine caractérisées par la nature des rapports de Dieu avec les hommes. Et que ces rapports ont connu des évolutions. Donc ça a été des rapports évolutifs. Dis après moi, évolutifs. Nous avons donc eu au départ la dispensation de l'innocence, car l'homme était innocent. La dispensation de la conscience, quand ils ont pris conscience après le péché d'Ève et Adam. La dispensation du gouvernement humain, après l'accord qui a été signé entre Dieu et Noé. Quand Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre en donnant l'arc en ciel comme signe de cette alliance. Ensuite, la dispensation du gouvernement, de la promesse qui a été faite à Abraham, quand Dieu lui a dit, ok, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Oh, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations, nations viennent des ethnos, tous les ennemis de la terre seront bénis après toi. Cette promesse annonçait donc que le peuple juif
n'était donc plus, selon la promesse adressée à Abraham, le seul peuple qui devait avoir accès à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, puisqu'il a dit toutes les ethnies. Mais pour que les ethnies, les ethnos, les tribus de la terre aient accès à cette promesse, il fallait que le prix soit payé par le fils né d'une femme, né sous la loi, qui est appelé Jésus. Et donc sa mort sur la croix devait donc, numéro un, payer le prix, la justification nécessaire par rapport au péché du premier homme et de dépouiller Satan de son pouvoir et nous affranchir de la servitude de la puissance ennemie. On est d'accord? Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Même si on ne comprend pas maintenant, on comprendra par la suite. Et donc, voilà que Jésus naît donc d'une femme née sous la loi. Et la Bible dit dans Hébreux 2, on va lire, versets 14 à 18, suivez-moi bien. Là, suivez la lecture, je lis d'une autre version, pas très habituelle, mais un peu plus explicite, appelée la parole vivante. Cette version dit, puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, parlant de vous et moi, nous sommes des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine, parlant de Jésus, il l'a fait, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir de celui qui détenait la puissance de la mort. Vous voyez, il est passé par la mort pour détruire celui qui détenait le pouvoir de la mort. Dans la vie, les choses par lesquelles vous passez deviennent les remèdes de ces choses. Si vous voulez aider votre génération, acceptez de passer par certaines choses. Amen. Nous continuons la lecture. Et la Bible dit, il a délivré ceux que la peur de la mort tenait, leur vie durant, dans un véritable esclavage. De toute évidence, il n'est pas venu pour s'occuper des anges. Et j'aime ça, heureusement d'ailleurs. C'est aux hommes qu'il a voulu porter secours. Aux descendants d'Abraham. Voilà, bien écrit. Et la Bible dit, comme le déclare l'Écriture, c'est pourquoi il a dû être rendu à tous égards semblable à ses frères. Il a pu ainsi devenir digne de confiance. Il a pu ainsi devenir, pour leur relation avec Dieu, un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. Vous voyez? Dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, dans le domaine de la dispensation. Et faire l'expiation des péchés de son peuple, parce qu'il a subi lui-même la tentation. Il peut maintenant secourir ceux qui sont tentés. Ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Vous voyez que, généralement, les choses que nous traversons sont des remèdes pour d'autres personnes. Et souvent, certaines personnes traversent des défis énormes, mais ne comprennent pas qu'ils doivent passer par là, parce que ces défis, quand ils vont les vaincre, ils pourront aider les personnes qui passent par les mêmes épreuves plus tard. Est-ce que ça va? Dieu n'a jamais pensé pour nous, hommes, frères et sœurs, que notre marche dans le royaume est une marche facile. Non, non. Dieu n'a pas conçu l'homme pour la facilité. Il a conçu l'homme pour la possibilité. Et s'il a dit domine, c'est parce qu'il savait que ça devait être difficile, il devait avoir une résistance. Mais vous et moi, nous ne sommes pas des personnes qui sommes à la recherche de la facilité. Non, nous sommes en quête de la possibilité. Quel que soit ce qui se lève sur notre chemin, nous dominons par la puissance qui réside en nous. Oh, mais dis à ton voisin, j'ai l'impression que tu ne te sens pas concerné par ça. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire un bon amen dans la salle. Amen. Donc, vous voyez, la Bible dit qu'il a participé au sang et à la chair. Donc Jésus, né d'une femme, né sous la loi, était 100% homme. Puisque la Bible dit qu'il est né d'une femme. D'ailleurs, la parole est claire à ce sujet. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il était né d'une femme. Donc, il était un homme. Dans cette dimension, à 100%. Jésus a mangé comme toi et moi. Il a bu, et la Bible va plus loin, il a eu sommeil, il a pleuré, il a connu des émotions, il a dormi, il s'est réveillé, comme vous et moi. Il était 100% homme. D'ailleurs, dans la dimension humaine, à 12 ans, conscient de son appel, il va dans le temple et il trouve les principaux sacrificateurs. Il commence à s'intéresser aux Écritures. L'intéressement aux Écritures à l'âge de 12 ans est un signe de la conscience qu'il a de son appel et de l'envie, du désir qu'il a de se préparer pour son appel. Malheureusement, aujourd'hui, dès que quelqu'un découvre qu'il a appelé, paf, tout de suite veut entrer dans le ministère. Non, il y a un temps de préparation. Dis après moi, temps de préparation. Encore temps de préparation. Vous allez vous rendre compte que les ministres qui ne sont pas préparés lisent les livres des autres et ils les prêchent. Mais quelqu'un qui est préparé a un message de Dieu. Parce qu'il a eu le temps de vivre une expérience personnelle. Il a donc quelque chose qu'il peut apporter. On ne sert pas Dieu avec l'intellect simplement. On le sert d'abord avec l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus était 100% homme. Et donc, il a vécu comme un homme. À l'âge de 30 ans, un événement va se produire. Jésus commence donc son ministère, sachant qu'il est appelé. Et il va donc être conduit vers les gens du Jourdain. Il va trouver son cousin de 6 mois, son aîné, Jean-Baptiste, qui était en train de baptiser. Et quand il arrive, quand Jean-Baptiste le regarde, il vient se faire baptiser. Jean-Baptiste le voit et il dit à tout le monde qui est autour, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc le regard de Jean-Baptiste a un caractère prophétique. Il réussit à voir au-delà de l'enveloppe naturelle la dimension divine que contient l'enveloppe de Jésus. Et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus arrive, subjugué par la révélation qu'il a de Jésus, il dit, non, je ne vais pas te baptiser, je ne peux pas, c'est moi qui devais être baptisé par toi. Mais Jésus va faire une déclaration qui doit nous amener à réfléchir. Il dit, non, je ne vais pas te baptiser, mais laisse accomplir toute justice. J'ai un problème avec certaines personnes d'entre vous. Vous dites, ok, je suis enfant de Dieu, j'ai reçu le Seigneur, mais vous refusez d'aller dans les eaux du baptême. Si le maître qui était 100% homme, 100% Dieu est allé dans les eaux du baptême, à plus forte raison toi. N'oubliez pas que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le tout n'est pas d'avoir accepté Jésus, mais le tout aussi c'est de confesser publiquement son appartenance, de prêter serment par rapport à cet engagement devant les hommes et devant Dieu dans les eaux du baptême. C'est de ça qu'il s'agit. On prête serment pour notre engagement. Alors, si à un mois, deux mois ou six mois, comme ce fut le cas de certains d'entre nous, on t'a balancé de l'eau sur le visage et on t'a dit tu es baptisé, on t'a simplement mouillé. Ça, ce n'était pas en baptême. Ce n'était pas en baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour votre information, Jésus avait la capacité de refuser d'aller dans les eaux. Certaines personnes croient qu'il était conduit comme un automate. Non. Il avait sa volonté comme vous et moi, puisque la Bible dit, il participe au sang et à la chair. Mais il a choisi d'aller dans les eaux du baptême. Et c'est quand il est sorti des eaux que ma Bible est claire à ce sujet. Une voix se fit entendre du ciel. Celui-là est mon fils bien-aimé, sur lequel j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je déclare sur ta vie que le ciel va te recommander dans ta saison. Ok, le Dieu va parler à ton égard. Et les gens sauront exactement quelle est la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. J'ordonne, je déclare sur ta vie la recommandation des cieux au nom suprême de Jésus. Que les gens entendent la voix de Dieu qui te qualifie dans ta génération au nom de Jésus. Une voix se fit entendre des cieux. Une voix se fit entendre des cieux. J'ai déjà été et je suis toujours ces derniers temps témoin de la recommandation du ciel. Quand les gens te persécutent et que quelqu'un dort la nuit et qu'il rêve et Dieu lui dit va voir Wafo, va prier chez lui, va dans tel endroit, c'est le ciel qui le commande. Vous devez croire en la recommandation du ciel. Vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier pour la recommandation d'en haut. Parce que si le ciel t'a recommandé, il n'y a aucun homme qui peut s'opposer à la recommandation du ciel. Celui-là est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. J'ai dit, je déclare sur ta vie que le ciel te recommandera.
Amen.
Amen. Et les gens l'entendront. La Bible dit, les gens ont entendu. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Quelle gloire, quelle puissance, quelle exposition, quel témoignage. Amen. Et vous savez, ce qui s'est passé après, si ça arrive aujourd'hui, la RTI va venir. Hein? Foi Info, Fraternité Matin, Le Monde, New York Times, pour voir, il y a eu un événement. Hein? Ou alors même, la personne va dire, ok, je vais à midi première, je vais à la télé, le Saint-Esprit est descendu sur moi, je suis le grand prophète, écoutez-moi, Dieu m'a choisi. Non, ça n'a pas été la réaction de Jésus. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, la vie de Jésus a pris une tournure où il était devenu lui-même le prisonnier de cette invasion de l'Esprit. Il a été prisonnier de l'invasion de l'Esprit. Puisque quand vous lisez dans Luc 4, vous allez vous rendre compte que tout juste après Luc 4, verset 1, la Bible dit « L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. » Il n'a pas été, le Saint-Esprit ne l'a pas conduit à faire des affiches, à faire des panneaux, à acheter une Cayenne. Non, ce n'était pas ça. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours de jeûne d'abord. Vous voyez, certains d'entre nous, nous voulons l'exposition sans passer par le désert, qui est en fait le moment où Dieu te met à part pour travailler dans ton cœur et forger le caractère qui est indispensable à toute élévation. Il le conduisit dans le désert pendant 40 jours pour être tenté par le diable. Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses qui brisent mon cœur, surtout pour les jeunes messagers de Dieu, les jeunes appelés. Ne tombez pas dans l'erreur. Chaque succès apparent cache des épreuves d'en bas. Ne regardez pas un avis pour dire il est beau. À l'intérieur, il y a tout autre chose qu'on ne voit pas. Recherchez ce qu'il y a à l'intérieur. Dedans, en bas du navire, c'est ça qui fait la force d'un navire. Ne regardez pas la surface. Ne regardez pas les costumes. Ne regardez pas la réputation. Ne regardez pas le voyage en première classe. Ne regardez pas les 5 étoiles dans les hôtels. Ça, c'est pas le ministère. Le ministère, c'est d'abord la profondeur. C'est le temps qu'on a passé avec Dieu dans l'intimité. Au début de mon appel, en 1995, de 95, 96, 97, ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, je ne pouvais pas lire un livre. Parce que quand je prenais un livre, j'avais mal à la tête. Le Saint-Esprit m'avait dit clairement, tu ne liras pas de livre. Et cet ordre est resté pendant 3 ans. Le seul livre que je lisais, c'était la Bible. Je lisais la Bible le matin, je lisais le Nouveau Testament, le soir l'Ancien Testament. Et j'ai lu la Bible plusieurs fois. Et quand je lisais la Bible, je m'enseignais et je prenais des notes. Pendant 3 ans, rien que la Bible. Et pendant ces 3 années, je faisais 120 jours de jeûne par an. Je jeûnais le tiers de l'année. Allez-y, certaines de mes photos, là, la gloire avait même déjà un peu commencé. Vous tapez sur Facebook, vous recherchez Révérend Raoul Wafo, regardez mon visage, on dira, peut-être lui, il était sidéré. Quand vous regardez mon visage, vous voyez les marques de la galère. Mais vous savez, ce sont des marques apparentes. Parce que je vais vous dire, la vraie gloire est déjà à l'intérieur avant que le monde ne le voie. Mais il faut qu'on accepte de payer le prix de la consécration, le prix de l'obéissance, le prix du sacrifice, le prix de l'abnégation, le prix de la renonciation, le prix de l'abandon entre sa main pour que le ciel commence à nous utiliser. Oui. Donc il y a eu ce temps de préparation. Il y a eu ce temps, allant dans les écoles publiques, cherchant, écoutant, fouillant,
dans la parole,
en temps de préparation.
C'est indispensable ce moment de préparation. Vous savez, je chéris ces moments où restant assis devant le Seigneur pendant 5 heures de temps avec ma Bible, 5 heures à fouiller dans les évangiles, à causer avec Dieu, entendre Dieu te parler dans ta maison. Dans une petite maison de moins de 10 mètres carrés, mais tu es dedans, tu es plus à l'aise que celui qui est dans un château. Parce que dans ces 10 mètres carrés, le ciel te rend visite dans cette maison. Oh my God. Vous savez, ce n'est pas le palais qui fait le roi, c'est le roi qui fait le palais. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus était dans l'étable, cette étable était étable, mais c'était devenu un palais royal. Parce que dans l'étable, il y avait un roi qui s'appelait Jésus. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ta localisation actuelle ne va pas déterminer ta destination finale. Dieu en rêve, Dieu en plan, et il va s'accomplir.
Amen.
J'ai dit, il va s'accomplir.
Amen.
Parce que Dieu en plan, il s'accomplira.
Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi?
Amen.
Donc Jésus alla dans le désert. Pendant 40 jours, il était dans le jeûne. Et quand il sort du jeûne, c'est là où la première des choses commence. Le diable arrive face à face en disant, bon, tu as jeûné, maintenant on va aller à l'épreuve. Et la tentation commence. La première tentation, il dit, dans Luc 4, quand vous lisez à partir du verset, je crois verset 3, on y va ensemble, je veux bien qu'on regarde. Ok, j'étais un coup d'œil là-dedans. C'est vraiment riche et profond. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. La première des choses que je vous fais remarquer, c'est que les attaques que nous avons sont proportionnelles à notre appel. Jésus était appelé à délivrer le monde et ce n'est pas un petit démon comme Marie de nuit qui est venu l'attaquer. C'est le diable en lui-même, en personne, qui est venu le rencontrer pour dire, bon, c'est moi-même qui suis là. Est-ce que vous me comprenez? Si ce sont les petits démons là qui te fatiguent, j'en serai au problème avec toi. Si vraiment tu es appelé par Dieu, le diable lui-même viendra face à face te rencontrer. Je me rappelle au Ghana en 1998, on était à une convention au Ghana, je me suis couché, le diable est entré dans ma chambre. Et le diable m'a dit, si tu me sers, je te donne la puissance. C'est-à-dire, c'était une vie, je ne sais pas si je dormais ou si j'étais éveillé, mais le diable était là. Et dans mon esprit, je lui ai dit, Dieu est capable de me donner ce que tu me proposes. Et je crois que ce jour, j'avais rencontré une grande victoire. Vous savez, quand vous avez faim de quelque chose, le diable vous l'amène avant que Dieu vous le donne. Il avait faim de pain et le diable est venu avant avec le pain. N'oubliez jamais que dans le schéma prophétique, le diable devance toujours Dieu dans son action. J'ai dit toujours. Dans la création du monde, le monde n'a pas commencé avec la lumière, mais avec les ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville et Dieu dit. Donc il y a toujours l'action du diable avant et ensuite la mouvance de Dieu après. Si tu es pressé, tu vas succomber à la proposition du diable. Je ne sais pas de quoi tu as faim, d'un mari, tu as faim d'une promotion, tu as faim de la prospérité, tu as faim de l'abondance. Écoute-moi bien, le premier schéma que tu as est généralement ce que le diable t'amène. Ce n'est pas parce que ça va te rapporter de l'argent que ça vient de Dieu. Il faut encore examiner. Vous n'êtes pas appelé à faire tout type de business, tout type d'affaires pour gagner de l'argent. L'argent n'est pas tout. Qui est derrière, c'est ce qui compte. Ordonne que cette pierre devienne du pain. Que cette pierre devienne du pain. Non, Dieu n'a pas envie que tu transformes la pierre en pain. Il a envie de faire descendre la manne du ciel pour te nourrir lui-même. Il n'a pas envie que tu fabriques ton miracle. Il a envie de le faire à ta place. Il a envie de te nourrir de la manne que n'ont pas connue tes pères. De te donner une nourriture que tu n'as pas expérimentée. Que tu sois étonné quand tu verras ce miracle. Tu te demandes comment est-ce que cela a été fait. Parce que le monde me dit qu'est-ce que c'est. Quand la nourriture de Dieu arrive, ta question c'est mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive?
Qu'est-ce que c'est ça? Je n'avais pas imaginé une chose pareille. Mais Dieu est au-dessus de ton imagination. Donc, quand il dit, transforme cette pierre et que cette pierre devienne du pain, je vous fais remarquer que là, Jésus affronte un ennemi redoutable qui est appelé la chair. Dis après moi la chair.
La chair.
Encore la chair.
La chair.
Nous savons que la chair avec ses convoitises et ses passions nous mène à la mort quand on se soumet à elle. Donc la chair avait envie de nourriture. Mais Jésus a dit clairement, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez que c'est ça le problème qu'Adam et Ève avaient eu. L'homme ne vit pas seulement d'un fruit, mais de la parole que Dieu a donnée, vous ne mangerez pas de ce fruit. Donc Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et donc il a surmonté cette convoitise de la chair. Vous voyez? Nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos vies. Il est important de comprendre qu'il y a des victoires que nous devons remporter dans notre vie personnelle. Si on ne les a pas remportées, nous allons opérer dans un minimum de puissance, minimum de visitation, minimum de gloire. Je vous dis sérieusement, même l'argent viendra à vous quand vous êtes entièrement soumis entre sa main pour faire sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle des personnes qui ont le cœur attaché à la mission centrale que Dieu leur a donnée. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de recevoir la parole de Dieu comme un trésor et de considérer qu'en elle se trouve la vie? Ma plus grande richesse n'est pas dans un compte bancaire. Allez prendre tous mes fonds dans les banques. Mais je vais vous dire une chose. Cette parole, je l'ai découverte. Elle est un trésor incommensurable. Elle a plus d'argent que l'argent de la Banque of America, au BNP, tout mélangé ensemble. Ici dedans se trouve la richesse la plus grande. Je la serre dans mon cœur parce que je sais que c'est elle qui fait de moi ce que je suis. Et que sans elle, je ne suis rien. Cette parole m'a donné la vie. Cette parole m'a affranchi. Cette parole m'a donné de rencontrer le véritable. Cette parole a changé mon cœur. Cette parole a ouvert mes yeux. Cette parole m'a délivré de la puissance des ténèbres. Par elle, je vis. Pour elle, je vis. Et à jamais, à jamais, à jamais, elle est l'autorité sur ma vie. Elle conduit mes pas. Elle dirige ma vie de tous les jours. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est un choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens vous dire qu'en tant que votre pasteur, j'ai fait le choix de la parole. Sérieusement, j'ai vu beaucoup de personnes détruire leur appel parce qu'ils ont choisi les biens. Je suis triste quand je vois ça, sérieusement. Mon âme est attristée parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire sérieusement, une chose que je vois et pour laquelle je prie pour vous sérieusement, je demande à Dieu, sincèrement, de vous faire découvrir cette vérité. Il n'y a rien dans le diable. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas attendre les bénédictions de Dieu avec les méthodes du diable. C'est impossible. Impossible. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Pour avoir des choses de Dieu, il faut passer par les méthodes de Dieu. C'est la première chose, la méthode de Dieu. Donc, après la convoitise de la chair, le diable ne s'est pas arrêté là. Puisque la Bible dit qu'après cette tentation, le diable l'a transporté au-dessus de la montagne pour lui montrer tous les royaumes, versets 5 à 8, en lui disant, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Mais quelle était la réponse de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 8, qu'est-ce que Jésus a dit? Lisez dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez? Donc il y a eu ensuite le deuxième ennemi qui était le monde. Il s'est tenu avec la force de Dieu. Et quand on lui a montré les royaumes, on lui a montré les dettes privées, on lui a montré les maisons, on lui a montré les duplex, on lui a montré les costumes, on lui a montré les chaussures, on a montré l'or, le diamant et toutes les richesses. Il dit, prosterne-toi devant moi et je te donne ces royaumes. Il dit, non, je ne pourrai pas te servir. S'il faut avoir ces choses, j'adorerai le Seigneur mon Dieu lui seul. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, j'ai vu dans les congrégations des pasteurs prier, poser les mains sur des gens demander, va, escroque-le. C'est pas grave. Prends cet argent, apporte non. Non et encore non. Nous ne devons pas faire ça. Dieu est capable de nous bénir. Il est capable de nous combler de toutes sortes de richesses. Le fait de le faire, c'est le manque de révélation de ce que Dieu est capable de faire. J'ai entendu un homme de Dieu et mon cœur s'est déchiré. Me disant, moi si je trouve une femme qui est riche, ça, je suis avec elle. Pourvu qu'elle supporte mon ministère. Et je vais vous dire la conséquence, aujourd'hui, on n'est plus amis. Vous devez vous déconnecter des gens qui pensent comme le diable. Ah non, non, je reprends. Vous devez vous déconnecter des gens qui pensent comme le diable. Certains d'entre vous, le vrai problème que vous avez, c'est que vous êtes toujours avec le diable tout moment. Et il y a des moments où il arrive, vous traversez les obstacles et vous vous séparez de lui. Ce n'est pas tout le temps que vous êtes en connexion avec les gens qui vous pompent l'esprit avec des pensées satanées. Ma soeur, ça ne fait rien. Toi aussi, ça fait longtemps que tu attends. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tout le monde fait ça aujourd'hui. D'ailleurs, même les pasteurs, tout le monde est dedans. Ça te fait quoi? C'est pas grave. Il va te payer une maison, il va te donner une voiture, ma soeur. Dieu t'a quand même visité. Et vous voyez, on vient à l'église, oh, témoignage. Dieu m'a béni. Ça, ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son homme? C'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction. Parce que Dieu est capable de nous donner ce qu'on désire. Il est capable de le faire. Est-ce que nous croyons simplement que Dieu peut le faire? Je vous arrête un moment. Imaginez-vous un moment. Dieu a créé le monde. Il a dit que la lumière soit. Sans crier, et la lumière fut. Il a appelé à l'existence les eaux. Il a créé le sec des eaux. Il a séparé. Il a élevé les montagnes, les plaines, les vallées, créé les animaux et les hommes. Ce même Dieu dit, je peux prendre soin de toi. Pourquoi tu doutes un seul moment de ce qu'il est capable de faire? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et lui, seul, Dieu attend de nous que nous nous prosternons devant lui seul. Est-ce que ça va? Dieu va le faire. Et je vais te dire qu'il va le faire de, comme tu ne t'attends pas, il va le faire. Mais est-ce que tu lui fais confiance? Le fait que le diable arrive avant est un signe que Dieu est derrière. Chaque fois que le diable arrive, ça veut dire que le Dieu n'est pas loin. Il est en train d'arriver. Mais est-ce que tu choisis d'attendre l'action de Dieu ou tu succombes à la convoitise des cieux? Tout ce que nous voyons autour de nous, Dieu peut nous le donner. Si on l'adore, vous voyez? Mais si on passe par le fait de se soumettre au diable, nous passons juste à côté de ce que Dieu nous a réservé. Donc nous devons faire le choix de surmonter la convoitise des cieux pour attendre ce que Dieu nous a réservé. Amen. Lève ta main et dis après moi, Seigneur, j'attends. Tu es celui que j'adorerai. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon roi. Aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Donc, et la deuxième tentation était celle qui était pilotée par le monde. Et la troisième, de 9 à 11, il est écrit. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Oh là là. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il y aura des ordres à tes anges. À ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur des ailes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, tu ne t'endureras point le Seigneur ton Dieu. Combien de ministères aujourd'hui sont bâtis sur l'orgueil de la vie? Vous savez que vous pouvez faire quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit postuler un emploi, que ce soit même au mariage, que ce soit au ministère, que ce soit une entreprise, quelque chose que vous êtes en train de faire, faites attention à la motivation qu'il y a derrière. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent à la surface, mais Dieu ne traite pas seulement avec la surface, il regarde la motivation. La Bible dit le diable l'a transporté pour placer au-dessus du temple. Le temple, c'est le symbole du royaume. Il l'a placé au-dessus en disant, bon, si la montagne est un problème, quand même, là, on est au temple. Donc, si c'est au temple qu'on est, quand même, jette-toi en bas, parce que là même, Dieu va te soutenir. Mais qui était à la base de cet ordre? Qui était à la base? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a ordonné ou tu es en train de le faire par rivalité, par compétition ou juste pour combler ta vie en termes d'existence. Qui est derrière? Qui motive? Est-ce que les pensées que tu as viennent de Dieu ou ces pensées viennent de toi-même? Si ça vient de Dieu, alors là, c'est bien. Mais si ça vient de toi, c'est l'orgueil de la vie. Vous savez, l'orgueil n'est pas ce qu'on a souvent décrit. L'orgueil, c'est cette capacité à ne pas accepter la pensée de Dieu à notre sujet pour adopter la pensée du diable. Donc, si tu fais quelque chose sous l'inspiration du diable, sous la motivation de la voix de ta chair, tu es en train de faire quelque chose qui correspond à l'orgueil de la vie. D'où l'importance pour beaucoup d'entre vous de développer, je vais en parler jeudi soir, l'art d'écouter Dieu. Comment savoir que Dieu nous parle? Souvent ta chair te parle, souvent ton mari te parle, souvent ta femme te parle, souvent le diable te parle, souvent les épreuves te parlent, les expériences te parlent. Et tu dis, Dieu m'a parlé. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il faut l'écouter. Ah non, j'ai prié, j'ai dit Dieu, dans tous les cas, si c'est toi qui viens de cogner à ma porte, c'est pas comme ça qu'on écoute Dieu. Non, 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 non. Vous devez savoir écouter Dieu. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Elles ne suivront point la voix de l'étranger. C'est pour ça que vous ne voyez pas votre pasteur dans les affairages, affairitisme, affairitant. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas de temps pour ça. Je suis focalisé sur ce que Dieu m'a demandé de faire. Il faut écouter Dieu. Dis à ton voisin, écoute Dieu. Parce que tu es sur le point, et je le dis prophétiquement, de t'annoncer que ta saison est en train de changer. Tu es sur le point de te dire que tu passes à un autre niveau avec lui. Tu es sur le point de te dire que la requête que tu attendais est bientôt arrivée. Tu es sur le point de te dire qu'il a quelque chose de grand qui va se manifester à ton égard. Que sa puissance couvrira ta vie et sa gloire se fera visible. Dis amen. Dis encore amen. Il faut écouter Dieu. Beaucoup d'entre nous avons des vies détruites à cause de la voix des prophètes. Faites attention aux voix des prophètes que vous entendez. Oh non, un homme de Dieu m'a dit que non, voici comment ma vie sera. Si tu es encore au niveau où c'est un homme de Dieu qui conduit ta vie, tu n'es pas encore dans le royaume. Ce n'est pas un homme de Dieu qui conduit ta vie. Non, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un prophète qui te dit ce que tu as à faire. Amen. Ce n'est même pas ton pasteur qui te dit ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas le bishop ou l'archevêque qui te dit ce qu'il y a à faire. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui conduit ta voix, ta vie dans les voies du Seigneur. Pas ton pasteur, mais le Saint-Esprit. Ne laisse pas la beauté de ce que Dieu a placé en toi être détruit par des mensonges ou par des erreurs des hommes. Laisse la beauté de l'éclat, le plan que Dieu a préparé à l'avance, arriver à éclosion parce que tu auras accepté de passer par le processus de l'Esprit de Dieu. Alors je vous pose une question. Vous pensez que Jésus aurait remporté cette bataille s'il n'avait pas jeûné 40 jours? Vous pensez? Beaucoup d'entre vous pensent qu'il aurait réussi. Je vous dis, il aurait lamentablement échoué. Vous savez pourquoi beaucoup de nous, d'entre nous avons des problèmes? La Bible dit, Dieu ne permettra pas qu'on soit tantôt de là de nos forces, qu'avec la tentation, nous aurons moyen de nous en sortir. Alors, simplifiez. Voilà, voici l'épreuve. Amen. L'épreuve arrive devant nous et nous sommes là. D'accord? Et nous sommes ici le 1er janvier. Dieu sait que le 8 mars, il y aura une attaque. D'accord? Et entre-temps, le Saint-Esprit arrive et nous avertit le 1er janvier en disant, le 8 mars, il y aura une attaque. Et le Saint-Esprit te dit, le 1er janvier, prends un moment de jeûne de 3 jours. Et toi, tu penses qu'il t'a demandé de jeûner simplement pour la religion. Non! Il te dit, prépare-toi. Il faut que tu passes plus de temps avec Dieu parce que je sais ce qui arrive. Et derrière chaque épreuve, au bout, mets-toi derrière, ok? Juste derrière lui, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable dans le royaume des cieux. Voilà, tiens-toi là. Lui, c'est la bénédiction, lui, c'est l'épreuve. Donc, tu arrives là, et donc, le Dieu t'avertit le 1er, il y a le 8 mars. Donc, tu marches, et il pèse ta force. Il dit, non, ta force n'est pas encore bonne, passe le temps dans la parole. Et tu dis, oh, Saint-Esprit, je suis fatigué. Il faut prier, non. Il faut faire sinon. Parce qu'il y a des moments où quand l'onction de Dieu descend sur toi, l'onction descend pour une invitation à la consécration. Il y a le moment où tu invites Dieu dans tes chambres. Il y a le moment où Dieu t'invite au ciel. Souvent, tu vas dans la louange, tu invites Dieu et il descend. Mais il y a le moment où tu es en route, Dieu dit, bon, paf, nous devons parler au ciel. Et tu sens l'envie de prier. Tu dis, non, je vais attendre. Alors que le ciel sait que bientôt, il y a l'épreuve qui arrive, mais tu refuses d'aller prier. Donc, quand tu avances et que tu rencontres l'épreuve, quand l'épreuve te tient, l'épreuve te terrasse. Et tu dis, oh, je suis tombé. Oh, j'ai eu un problème. Alors qu'en fait,
la mesure de la force que tu as, le 8 mars, ne correspond pas à ce que le ciel attendait que tu puisses avoir. Et quand tu tombes, tu recommences à zéro et l'épreuve t'attend. Si tu n'as pas vaincu cette épreuve, tu n'as pas cette bénédiction. Donc quand tu veux passer, bloque-moi. Voilà, tu reviens, tu bloques. Encore tu bloques. Alors vous savez, le chrétien charnel dit, bon, je m'avais jeûné 21 jours. Rukomandiri kandi koroshita. Bon, et puis il revient. C'est pas comme ça. Si nous devons passer toute notre vie à jeûner pour emporter une bataille, alors nous sommes devenus misérables. Mais quand tu es préparé le 1er janvier et que l'épreuve arrive, tu marches comme moi. Vous avez déjà vu en route, comme je marche. Amen. Comme quelqu'un qui sait où il va. Comme un général qui va à la conquête. Tu arrives et tu dis, mais dégage. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous voyez? Tu entres dans ta promesse. Parce que quand tu es venu, tu avais l'autorité. Même si le peuple essaye de t'arrêter, viens. Allez. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu as la force. Vous comprenez? Mais si tu ne prends pas le temps de préparer ton homme intérieur pour affronter l'épreuve, c'est l'épreuve qui va te terrasser. Et nous commençons à faire des confessions stériles. Oui, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Si on, au-delà de nos forces, alors que tu n'as pas de force. Vous voyez? Tu n'as aucune force, mais on dit au-delà de nos forces. Et tu n'as pas pris le temps d'avoir une force. Vous comprenez? Donc c'est important. Et ça, vous allez vous rendre compte que bien après, toutes les tentations au verset 14, je crois, la Bible dit, Jésus, revêtu de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Une autre version dira, revêtu de la puissance d'en haut. Qu'est-ce qui a été la conséquence du revêtement? C'était la consécration. Vous voyez? C'était la consécration. Pourquoi aujourd'hui vous voyez des gens qui prient et qui poussent, ah, reçois, ils te poussent, ils tapent même pour que tu tombes. Parce qu'ils n'ont pas préparé. Vous voyez, ils n'ont pas préparé. J'ai des gens qui ont prié pour moi, ils te poussent même, on te pousse carrément. Si tu n'es pas tombé, il n'y a pas de miracle. Vous voyez, pourquoi? Parce que les gens ne sont pas préparés à l'action de Dieu. Si je te dis tu es guéri, je n'ai pas besoin de te voir tomber, je crois que tu es guéri. Vous savez, ce n'est pas moi qui fais le miracle. Donc, je crois que celui qui est derrière a la capacité de veiller sur la parole de son serviteur pour l'exécuter. Voilà la base. Mais ça passe par un moment d'abandon à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Revêtu de la puissance d'en haut, Jésus s'en alla et sa renommée se répandit partout. Il guérit les malades, il ressuscita les morts, purifia les lépreux. C'était extraordinaire. Mais, vous savez bien, que la mission de Jésus n'était pas de guérir les malades, n'était pas de purifier les morts, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, non. Galates 4, verset 5 nous dit, afin de racheter ceux qui étaient sous la malédiction de la loi. Guérir les malades non, ne rachète pas les gens, non. Purifier les morts ne rachète pas les gens. Et ça, je veux parler à certaines personnes. Faites attention. Il y a des succès qui peuvent vous empêcher d'accomplir votre mission. Ne vous limitez pas au fait d'avoir de succès, d'avoir gagné de l'argent. Mais il faut encore s'abandonner entre les mains de Dieu pour chercher le but essentiel de son existence. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le spectacle, c'est la volonté parfaite de Dieu qui doit être accomplie. Et donc Jésus, le comprenant parfaitement, Adam est allé au-delà du succès apparent. Moi, j'ai vu ça tout le temps. Vous savez, je rentre chez moi et souvent je me mets à genoux, je lève les mains vers le trône de Dieu et je pleure pour ma vie parce que je suis conscient. J'ai en image les livres que Dieu m'a montrés à l'intérieur de moi. Toute une bibliothèque qui était dedans. Et je dis à Dieu, je n'ai pas de force pour le faire, je n'arrive pas à le faire. Comment je vais faire pour y arriver, Seigneur? Je dépends de toi. Je vois une large congrégation de des dizaines de milliers de personnes qui dépendent de mon ministère. Et je dis, Seigneur, donne-moi la force. Je suis conscient que ce soit Porsche, que ce soit une maison, que ce soit le succès dans les affaires, ce n'est pas là mon appel. Le but, le fait de gagner de l'argent n'est pas l'essentiel. Gagner de l'argent vient soutenir l'essentiel de l'appel, qui est de prêcher la parole, gagner les âmes, délivrer ceux qui sont sous la malédiction des ténèbres. Voilà le but. Donc, je ne prends pas l'argent
pour laisser le soir à l'argent de me dire va ici, va là-bas. Non, bien au contraire. Je reste zen, calme, concentré sur l'objectif. Et Jésus savait que son objectif était la croix. Oui. Vous savez que votre objectif central va toujours être un endroit pas confortable par rapport à votre être. Sérieusement, sérieusement. Vous savez, vous pouvez imaginer combien de fois j'ai bien envie d'aller prendre mon yacht et puis d'aller juste au large, passer 2 semaines avec ma femme et moi, juste au bord de la mer, sachant que même si je ne suis pas en train de travailler, je gagne des millions par mois sans travailler, que j'ai déjà mis des systèmes super qui me font gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez qu'il faut suffisamment de claquer du bout de doigt comme ça pour voir toutes sortes de créatures autour et qu'avec toute cette aura que Dieu te donne, tu dois rester dans l'essentiel de ce que Dieu t'a demandé, qui est la préparation de la parole, rester à ses pieds pour l'impact. Ce n'est pas le petit bruit, c'est la profondeur. Dis après moi profondeur. Encore dit profondeur. C'est pas ça, c'est aller plus profond que ça. Dans le centre même du cœur de Dieu. Pour comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé. Et là, tu ne te laisses pas distraire. Et dans cette situation, il y a des amis qui deviennent des ennemis qui deviennent des amis. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus comme avant. Non, c'est plus possible. Vous êtes avec moi? Mon petit frère dans ma maison, on ne peut pas causer samedi soir jusqu'à 20h. J'ai une mission. Je dois aller m'enfermer. Je dois préparer le message. Je dois nourrir le peuple. Je dois prier. Ça vous demande une certaine hauteur de consécration. Pour répondre à l'appel de Dieu. Pour aller là où Dieu vous demande. Vous devez regarder votre vie comme un sacrifice ambulant. Pour la fierté du ciel. Quand vous quitterez cette terre, ne demandez pas que ce soit votre nom qui soit écrit sur la tombe. Mais a vécu sur cette terre un instrument de Dieu pour influencer sa génération afin que le règne de Dieu vienne. Voilà l'inscription sur la tombe. Vous ne comptez pas. On est mort en lui. Pour lui. Rien que pour lui. On meurt en lui. Pour lui. Et vous allez, vous voyez, au-delà de cela, je vais vous faire comprendre ceci. Et je vais prier pour tout le monde ce matin. Je vais prier pour toi. Je ressens un revêtement d'une onction inhabituelle sur ma vie à cet instant où je parle. Amen. De quelque chose que Dieu va déclencher dans ta propre vie. Amen. Nous sommes une armée, nous allons envahir le monde, nous allons inverser le coup de l'aura, de ce qu'on entend parler. Dieu, la parole de Dieu va se répandre dans les contrées à partir de cette église. Donc il est important, je parlerai dimanche prochain, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on a la victoire sur ça et sur ça. Mais Jésus est venu racheter notre corps, notre âme et notre esprit. Alors, donc, quand il devait accomplir sa mission, il comprenait que c'était une mission terriblement terrible. Alors, il a compris qu'il devait aller à la croix pour mourir, pour racheter l'homme. Et vous savez que Jésus, dans le rachat qu'on nous montre habituellement, c'est un rachat qui a l'impression d'être unidimensionnel. Mais ce n'est pas vrai, c'est tridimensionnel. Dis après moi tridimensionnel. Tri vient de trois dimensions du rachat. Alors, à Gethsemane, Jésus se met à prier. Mets-toi à genoux. Il se met à prier. Il va devant le Père, il prie, il dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Parce que Jésus devait racheter l'âme de l'homme. On est d'accord là-dessus. Donc il prie, dans Matthieu 26, verset 38 à 40. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais non ma volonté, mais la tienne. Et pendant qu'il part, il dit, si c'était possible que cette coupe me soit ôtée. Non ma volonté, mais... Alors, vous savez, je vous fais observer que Jésus avait la capacité de dire non. Jésus pouvait dire, je ne pars pas à la croix. Certains de vous ne le réalisent pas, mais il pouvait dire non. Mais il prie, et la sueur qui sort de lui se transforme en sang. Et il va vers ses disciples. Il dit, prions ensemble. Après quelques 30 minutes de prière, il tombe dans le sommeil. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller une heure. Vous savez, certaines personnes d'entre vous, vous priez. Mais je vais vous faire comprendre ceci. Quand l'épreuve arrive, même la prière devient difficile. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des moments où vous voulez prier. Je parlerai de ça la semaine prochaine. Le sommeil vous envahit tout de suite. Vous étiez lucide, vous vous retrouvez. Il y a des personnes qui avec eux commencent à dire, ils sont partis depuis longtemps. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'il parle? Les gens qui baillent dans la prière, prie pas. Assis. Et donc il prie, et dans la première victoire qu'il va remporter, n'oubliez pas que quand l'homme était dans le jardin d'Éden, le problème que l'homme a eu, c'est que l'homme a fait sa volonté et non la volonté de Dieu.
Alors pour acheter l'homme au niveau de son âme, Jésus devait faire la volonté de Dieu et non celle de lui-même. Donc il dit, il va vers l'âme. Donc le rachat, parce que étant condamné, ils sont à genoux. Mais il va vers l'âme maintenant. Non ma volonté, mais la tienne, mais il la rachète. Donc la première des choses, c'est qu'il rachète l'âme. Parce que en faisant la volonté de Dieu et non la sienne, avec douleur et souffrance, il va reconquérir l'âme. Et l'a sauvé. Mais s'il avait conquis l'âme et il avait laissé le corps et l'esprit, là, il n'aurait pas racheté l'homme. Parce que l'homme n'est pas qu'une âme. L'homme est une âme ayant l'esprit et vivant dans un corps. Donc la deuxième bataille, c'est qu'il devait racheter une deuxième partie. Et il recommence, et donc quand il va devant Pilate, et quand il demande, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu l'as dit. Après, on le livre pour être tué. On l'arrête, on commence à le battre de verge. On crasse sur lui. On commence à le cogner. Mais quand on le bat, quelle est la partie de son corps qui souffre? C'est quelle partie? Quand on le bat, c'est quelle partie? Le corps qui souffre. Donc dans la souffrance, n'est-ce pas? Dans la souffrance de son corps, il était en train de racheter le corps, n'est-ce pas? Mais arrête-toi là. Maintenant, je vais vous faire comprendre ceci. Gardez ça profondément. Quand Jésus est à la croix, dans Matthieu 27, quand vous lisez, vous rendez compte du verset 34 ou 35, il a dit ceci. On lui donna du vin mêlé de fièvre. Et il refusa de boire. Pourquoi il refusa de boire? Parce que vous savez que quand vous êtes ivre, on peut vous donner des coups de poing, vous ne ressentez pas bien. Parce que l'alcool va amoindrir la douleur du corps. Donc quand il a goûté et il a su que c'était alcoolisé, alors qu'il a dit j'ai soif. Quand il a vu que c'était l'alcool, il refusa de boire. Parce que s'il avait bu à cet instant, il n'aurait pas pu racheter le corps. Vous voyez? Donc il fallait qu'il souffre dans son corps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il était semblable à un agneau comme un à la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Frappé et humilié des hommes. Ok? Cet homme, Jésus, a été frappé et humilié. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Notre corps a été racheté par la douleur de son corps. Si vous avez cette révélation, il n'y a aucune maladie qui peut contester le fait que votre corps a été racheté par sa mort. Le tout n'est pas de le dire, mais c'est de comprendre qu'il a souffert dans son corps pour que mon corps soit racheté. Et l'ayant frappé de 30, de 40 coups moins 1, frappé sérieusement à la croix, Jésus a souffert chaque douleur pour l'expiation et la destruction d'une maladie, afin que notre corps soit affranchi. Vous êtes avec moi? Parce que notre corps a été racheté. Et donc, après la mort, le rachat du corps, il devait aller maintenant au rachat de l'esprit. Alors, sur la croix, vous entendez Jésus dire, « Eloi, Eloi, lama sabachthani. » Ça veut dire, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez que Dieu collabore avec l'homme dans son esprit. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais où est-ce que cette gloire est d'abord manifeste? C'est dans l'esprit de l'homme. Bien-aimé, mon soeur, c'est que tu ne poses pas à tous les gars qu'on ne pose pas l'état de ton âme. Mais cette pauvreté vient par la communion que tu as avec Dieu dans ton esprit. Donc, en étant privé de la gloire de Dieu, étant privé de Dieu, il rachetait nos esprits qui, eux, maintenant, vont rentrer en communion dorénavant avec Dieu. C'est pour ça que quand il est mort, après avoir dit cela, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Parce qu'il n'y avait plus de raison que les esprits des hommes sur terre qui acceptent Jésus soient encore privés de sa présence. Et il dit, vous avez cette grande assurance, vous avez un libre accès au devant du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que nos esprits ont été rachetés. Donc quand il va accomplir les trois actions, quand il va mourir, il va pousser un grand cri et il va dire, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte par sa mort que non simplement il a racheté l'homme, mais ensuite, maintenant, il va aller aux enfers pour dépouiller Satan de ses pouvoirs. Parce que si l'homme est racheté, le pouvoir de Satan est annulé. Ce qui donnait le pouvoir à Satan était la captivité de l'homme. Mais si le prix du péché a été payé, le pouvoir de Satan est donc annulé totalement. Et c'est comme ça que la Bible dit dans 1 Pierre qu'il allait prêcher aux esprits qui étaient en prison. Jésus va donc arriver parce qu'il était précédé par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste, on a accroché sa tête, il est entré dans le sein d'Abraham. Il dit, les gars, je viens de la terre. Ce que j'ai vu là-bas, c'est grave. Jésus est là. Et il dit, quoi? Il dit, oui, Jésus est là. Jean-Baptiste dit, je l'ai vu. David dit, quoi? Il dit, Jésus est sur la terre. Jonas dit, il dit, quoi? Il dit, Jésus est là. À quoi il ressemble? Pendant qu'il parle encore, Jésus entre dans la salle. Comme la Bible dit, il allait prêcher aux esprits qui étaient en prison. Il se présente à eux et il dit, écoutez-moi bien, je suis celui qui suit. Et les tous nous regardent dans l'admiration totale. Il dit, je suis le roi de gloire. Je suis venu vous restaurer. Je suis venu vous redonner le pouvoir. Attendez-moi là, ne bougez pas, j'arrive. Et il descend maintenant dans les régions inférieures de la terre pour aller prendre entre les mains de Satan et de ses démons la clé de la vie. Et il revient et dit, je vous ai donné le pouvoir, car tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout ce que vous lirez à mon nom sera lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que tout pouvoir nous a été donné. Il a repris le pouvoir entre les mains de Satan. Est-ce que tu comprends? Que quand on dit que tu as le pouvoir, ce n'est pas la blague. Et je conclue en disant ceci. Ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Lui-même, il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grands, parce que je vais au Père. Nous revenons au dernier passage, verset 5 de Romains 4, de Galates 4, qui dit que afin que nous puissions être adoptés. Donc nous avons été adoptés. Donc dorénavant, Jésus-Christ devient aussi le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc nous sommes les frères du Seigneur. Il a montré l'exemple. Comme il a marché, nous pouvons aussi marcher. Dans la puissance dans laquelle il a été, nous pouvons la démontrer. Simplement parce que Jésus a payé le prix. Pourquoi? Et je veux vraiment que tu crois que ce prix a été payé et que tu peux voir la gloire de Dieu dans tous les compartiments de ta vie. Rien ne t'empêche de voir la plénitude de sa puissance, de son action à ton égard, car il est ton créateur. Si tu le crois, lève-toi et on va adorer le Seigneur. Lève tes mains vers le trône de Dieu, bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Bénis Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Élève ta voix maintenant, rends grâce à Dieu pour le prix qui a été payé pour toi. Remercie Jésus pour le prix qu'il a payé pour ton esprit, ton âme et ton corps. Selon qu'il est dit que nous allons trouver irrépréhensibles, esprit, âme et corps, à l'avènement du Seigneur. Bénis la grandeur de ton Créateur. Exalte sa majesté. Bénis la grandeur de Dieu. Célèbre sa puissance. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Bénis ton Créateur. Il a payé le prix. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par sa mort sur la croix, il a racheté la puissance. Il t'a racheté et détruit la puissance des ténèbres. Ta vie est à jamais sous le contrôle de son pouvoir. Car tout est grâce de façon infinie à ton égard. L'Éternel est Dieu. Il règne. Alléluia. L'autre chante. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, j'ai entendu cette parole, je suis convaincu que si je meurs maintenant, je vais à l'enfer. Je ne connais pas Dieu. Je n'ai pas de relation directe avec lui. Je veux prier avec toi ce matin afin que tu sortes ici. Si tu as un pour sa vie, à quelqu'un d'autre, tu dis vraiment, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Merci Seigneur. J'ai entendu ta parole, elle a touché mon cœur. Merci de m'avoir acheté dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour mes péchés. Tu as versé ton sang pour mes iniquités. Je suis justifié par ton pouvoir. Merci, Seigneur. À partir d'aujourd'hui,
Je dénonce ma vie passée, mon appartenance à Satan. Je refuse. Je suis enfant de Dieu à partir de ce jour. Car j'ai été adopté à la famille royale par le sang de Christ. Merci pour moi. Je suis descendant légitime d'Abraham par la foi. Au nom de Jésus, je prie. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ces vies. Merci pour l'œuvre puissante. Et ta grâce qui s'accomplit à l'éternité. Que ton nom soit célébré à toi, petit.